Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme pleine de surprises qui a vécu, on va dire, pas mal d'étapes assez vite dans sa vie avant de se prendre en main et de vivre la deuxième partie de sa vie en pleine conscience. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup d'être ma jeune femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lelaneda ?
Ça va très bien, alhamdoulilah. J'ai l'impression de vivre un rêve.
Oh, c'est pas vrai. Je suis touchée. Merci beaucoup, Nada Black. C'est moi qui suis honorée par ta confiance. Et justement, de compter parmi la communauté de femmes d'aujourd'hui, une jeune femme comme toi. Voilà.
Barakallahu fik. Merci beaucoup, Yasmine.
Alors justement, Nada, moi, en voyant ton parcours, j'ai l'impression que tu as tout vécu à grande vitesse, très vite. C'est-à-dire grandes études, gros cabinet de conseil, le premier, le deuxième. Et ensuite, allez, je me convertis, je fais autre chose. Tout ça en l'espace de quoi, 10 ans ?
Oui, tout à fait.
Ok, donc tu as fini tes études vers quoi ? Vers 24 ans ?
Alors, j'ai fini mes études vers 23 ans. Et j'ai commencé à travailler à Paris dans le consulting en finance. J'ai travaillé dans de grands cabinets de conseil à Paris. Et à l'âge de 29 ans, j'ai fait une expérience très difficile. J'ai vécu le burn-out, qui m'avait franchement détruite émotionnellement, physiquement, mentalement. C'était une expérience très, très dure. En fait, je me suis arrêtée de travailler pendant 2 ans et demi. C'est très dur pour une personne très, très active, high achiever, qui a une grande vision. Mais pour moi, c'était une renaissance.
Alors, on va y aller petit à petit, justement. C'est pour ça que j'ai dit, quand on prend ces 10 ans de ta vie, ça a été en accéléré. Et après, stop, je reprends ma vie en main. Donc, tu as dit un mot très important, tu as dit « high achiever ». Est-ce que ça peut aussi peut-être réveiller des parents qui nous écoutent maintenant ou des jeunes qui sont avec nous aujourd'hui est-ce que c'est, on va dire, tu as grandi dans ça ? Est-ce qu'on t'a toujours poussé à être la meilleure ?
Alors, mes parents ne m'ont pas poussé, mais j'ai toujours eu l'envie d'être la meilleure. J'ai toujours eu, en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu une grande vision pour moi et j'ai toujours voulu être la meilleure dans tout ce que je fais, à l'école, au travail. En fait, j'ai grandi avec ça.
Oui. Excuse ma question, mais pourquoi ?
Oui. Pourquoi ?
Est-ce que tu sais pourquoi ?
Est-ce que je sais pourquoi ? Je pense qu'il y a une partie qui est innée. Et je pense aussi qu'il y a une partie qui relève peut-être du contexte familial. Parce que j'ai un papa qui est perfectionniste. Donc, je pense qu'il y a un mélange d'acquis et d'inné.
Ouais. Alors, tu finis tes études, tu intègres de très grands groupes de conseils, des grandes firmes internationales. Et à l'intérieur, j'imagine, c'est...
C'est la guerre. It's up or out.
It's up or out, bon. Absolument. C'est le, yeah. c'est le slogan de l'un de ces cabinets, absolument. Up or out. Donc, soit tu montes, soit tu dégages.
Tout à fait.
Et ça, tu l'as vécu à l'intérieur. Donc, ça veut dire quoi, finalement ? Quand on rentre, on a l'impression qu'on a décroché le grand sésame, mais finalement, le quotidien, c'est quoi ? Quand on travaille dans un cabinet de conseil ?
Alors, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de deadlines à respecter, des clients qui sont des fois très difficiles à gérer.
Ça veut dire quoi, par exemple, pour le mettre dans ce contexte-là ? Parce que, allez, dans plein de boulots, c'est la même chose, du stress, beaucoup de stress, des deadlines, des clients difficiles à gérer. Mais la particularité de ces cabinets-là, de ces cabinets de conseil, est ce qui a fait ensuite que finalement, ça a donné un burn-out.
Alors, dans mon expérience personnelle, ce qui a fait que ça a généré un burn-out, déjà, j'occupais des postes qui dépassait mon niveau d'expérience. Je les gérais très bien. Et je n'avais pas en contrepartie le salaire ou le poste que je voulais. Donc, il y avait un décalage entre l'effort que je fournissais et ce que je recevais de mon employeur. Donc, il y avait un sentiment d'injustice et de frustration.
Tu penses que ça a contribué au burn-out? Si tu avais le bon salaire, est-ce que ton cerveau n'aurait pas, entre guillemets, chauffé? Parce que c'est un burn-out, en fait, c'est que le cerveau s'arrête.
Oui. Si j'avais le bon salaire, est-ce que j'aurais pas fait des burn-out? Je pense pas. Parce que aussi, il y avait des. En fait, le burn-out, il vient de facteurs endogènes et exogènes. Il y a des facteurs qui sont liés à mon employeur, mais il y a aussi des facteurs qui sont liés à moi. Pour revenir aux facteurs liés à l'employeur, donc la surcharge, des fois, tu as un poste qui doit être occupé par 3 personnes, tu le gères toute seule, et c'est ce qui m'est arrivé sur 2-3 missions. J'ai eu 3 missions difficiles en 3 ans, avec un manque de temps de récupération, tu vois, et surcharge de travail, des changements organisationnels à répétition, beaucoup de pression. Donc ça, c'est ce qui est en relation avec mon employeur. Pour moi, alors moi, je vivais beaucoup dans ma tête et j'étais totalement coupée de mon corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'étais inconsciente de mes émotions. J'étais incapable de ressentir mes émotions. Et donc, quand mon corps m'envoyait des signes, je ne les détectais pas.
Mais en même temps, c'est normal à cet âge-là. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu des femmes beaucoup plus âgées que toi dire la même chose. Mais quand on a 26 ans, 27 ans et qu'on a décroché dans sa tête le boulot de ses rêves, et on se donne à fond et on a toujours vu des séries sur ses cabinets et on sait comment ça... Voilà, c'est des vrais sharks, comme on dit. Et donc, on a envie de... Mais j'ai l'impression que c'est humain de ne pas s'en rendre compte à cet âge-là.
Alors, en fait, je pense que malheureusement, on n'a pas eu, étant enfant, l'occasion de comprendre ce que c'est qu'une émotion. On n'a pas cette culture au Maroc.
Non.
Et je pense que c'est super important de comprendre dès très jeune, dès un jeune âge, comprendre que le corps s'exprime à travers les émotions et qu'il est nécessaire de... être attentif à ses émotions, au message que ses émotions veulent nous délivrer, parce que finalement, les émotions, elles sont là pour nous transmettre un message et c'est pour notre bien. Si on n'est pas réceptif à ses émotions, qu'est-ce qui risque de se passer? Un burn-out, une dépression, des maladies.
Par rapport à ton burn-out, quand tu l'as annoncé à ton employeur, comment ça s'est passé?
Alors déjà, moi, j'étais en arrêt maladie pendant 2 ans et demi. Pendant les 2 ans et demi, j'étais vraiment coupée du monde du travail. Je me suis coupée de mes collègues, de ma hiérarchie.
Mais comment tu as su que tu étais en burn-out? Quand est-ce que le mot a été posé?
Alors déjà, j'ai eu du mal à comprendre que j'étais en burn-out. Parce que mon corps m'envoyait beaucoup de signes. Je voyais que je fonçais dans un mur, mais je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que...
C'était quoi les signes? Pardon, Nada.
Les signes. Ouais. Pas de souci. Les signes, j'avais des décharges électriques au niveau de ma poitrine. J'avais des maux de tête. Je me sentais tout le temps fatiguée. Je suis une personne très, très positive. J'avais du mal à sourire. J'étais devenue très négative, très sensible, tout le temps fatiguée. Même si je dors, je ne sais pas, 14 heures, je suis fatiguée. J'avais des douleurs à l'estomac, j'arrivais au boulot avec une boule au ventre. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais comme signe? Des tensions au niveau de la nuque, beaucoup de négativité.
Et agressivité. Tes parents, j'imagine, étaient loin. Est-ce qu'ils s'en rendaient compte quand ils te parlaient au téléphone ou pas?
Alors oui, mes parents étaient à Rabat. Ma mère, elle s'en était rendue compte. Mais moi, j'étais inconsciente. Mais moi, j'étais complètement inconsciente de ce qui m'arrivait. Jusqu'au jour où, 2-3 fois, le matin, je me réveille, j'ai les yeux qui sont ouverts, mais je n'arrive pas à me lever. J'arrive pas. Je n'arrive pas à contrôler mon corps. Et quand je suis partie voir mon médecin, elle m'a dit « Attention, 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 votre corps est très faible. » Du coup, j'ai eu un premier arrêt maladie, deuxième, troisième arrêt maladie. Il y a mon supérieur qui est venu me voir. Il m'avait proposé de m'arrêter pendant 4 mois. Donc, c'est comme ça que je me suis arrêtée. J'ai été voir mon médecin, je lui ai parlé. Et en fait, les 4 mois n'étaient pas suffisants. Du coup, de 4 mois, je me suis arrêtée de travailler pendant 2 ans et demi.
Et tu es rentrée au Maroc à ce moment-là?
Alors, malheureusement, en fait, j'ai passé une grande partie à Paris. Et du coup, ouais, mes parents étaient au Maroc. Je rentrais de temps en temps, mais j'ai passé une grande partie de ma période d'inactivité en France.
D'accord, ok. Alors, à quel moment tu as décidé justement de, ça fait, stopper tout ce que tu faisais et aller vers le développement personnel et l'accompagnement des autres? C'est pour ça que je te dis, en fait, tu as tout fait en accéléré parce que l'expérience de femmes d'aujourd'hui me montre en fait que, en général, les femmes font leur burn-out mi-trentaine, fin trentaine, et font une reconversion à la quarantaine. Toi, tu as tout fait dans la vingtaine, début trentaine. Ça veut dire que tu t'es connue très tôt.
Et je me dis, alhamdoulilah, it happened for me. Ce qui s'est passé, il est arrivé pour moi, pour me faire grandir. C'est un cadeau de Dieu. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à travers cette expérience de burn-out. En fait, pendant mon arrêt maladie, j'avais pris la décision de devenir coach parce que l'expérience du burn-out m'avait tellement marquée que je voulais absolument devenir coach pour aider d'autres personnes qui ont mon profil à prévenir le burn-out ou à le dépasser ou à définir ce qu'elles peuvent ou ce qu'elles veulent faire après le burn-out. Donc, je voulais absolument faire un métier qui a du sens pour moi, voir mon impact direct sur
les gens,
sur la vie des autres. Voilà. Et aussi, juste avant le coaching, j'ai décidé de faire du coaching, mais avant, j'avais monté ma boîte de consulting. Donc, j'ai créé, juste après les 2 ans et demi, j'ai créé mon entreprise à Paris de consulting. Donc, j'avais fait 14 mois de consulting. Ensuite, je me suis formée aux États-Unis au coaching.
D'accord. Donc, finalement, aujourd'hui, tu es dans quoi exactement?
Alors, aujourd'hui, je suis dans le consulting / coaching pour les particuliers. Je coach sur le mindset, business, health et j'ai un autre projet autour du bien-être et de la santé.
Ok, donc en fait là tu es en train de, tu as lancé ton cabinet où tu mets tous les ingrédients de ta formation au service des autres.
Tout à fait.
Et tu arrives à mieux te gérer aussi parce que là aussi tu as des clients, là aussi tu as des deadlines, là aussi tu as des projets. Il y a le volet santé, mais il y a aussi le volet entreprise. Donc, c'est le boulot des gens, c'est leur gagne-pain. Est-ce que tu arrives à te gérer par rapport à ça, à te gérer après cette leçon de vie que tu as eue, qu'est le burn-out?
Oui, alors je vais être très honnête avec toi. J'arrive à me gérer à 90%. Pourquoi? Parce qu'en tant que coach, j'ai des outils que j'applique tous les jours sur moi pour gérer mes pensées, gérer mes émotions, gérer mes actions. Je sais évaluer, on va dire, mes limites et je sais m'arrêter quand il le faut. Mais il y a des fois où je suis en mode autopilot. Du coup, j'oublie un peu mon rythme de vie. Mais j'y travaille, j'ajuste. Donc, pour répondre à ta question, à 90%, je me gère, je sais, mais j'ai encore 10% sur lesquels je travaille.
Tu n'as pas voulu rentrer au Maroc après cette histoire?
Alors, le Maroc, en fait, j'ai passé un an au Maroc. Moi, comment je vois ma vie, je me vois entre le Maroc, Paris et Dubaï. Je ne me vois pas rester à 100% au Maroc. J'aime bien cette dimension internationale où je vais un peu partout.
Ouais.
Donc, le Maroc, oui, mais pas à 100%.
Pourquoi je te dis ça? Parce que tu es passé par des moments difficiles et j'imagine que ça devait être difficile même pour tes parents en fait, que tu sois pas à côté, leur fille va pas bien, c'est sa santé mentale qui est touchée.
Je sais qu'ils étaient inquiets, mais ils ont tellement confiance en moi qu'ils savaient que j'allais m'en sortir. Donc oui, ils étaient inquiets, mais pas grandement.
Mais c'est un burn-out quand même, Nada, c'est quand même, oui, un burn-out. C'est-à-dire que oui, tu es une... j'ai l'impression que tu continues à mettre en avant cette image de la jeune femme forte, la jeune femme perfectionniste, la jeune femme qui peut s'en sortir toute seule. C'est bien, ça donne de la force. Mais il ne faut pas oublier que c'était quand même un burn-out.
Oui, tout à fait. Alors, je mets en avant cette jeune femme qui est perfectionniste, qui veut bien faire, qui est high achiever, mais aussi, je mets beaucoup en avant ce côté vulnérable, ce côté authentique, qui m'est très cher, parce que l'authenticité, le fait d'être soi, le fait d'exprimer sa voix, le fait de partager ses expériences, c'est ce qui fait la force de la personne, et c'est ce qui fait que tu attires les bonnes personnes pour toi. Donc pour moi, oui, je mets en avance mes points forts et les points où je suis vulnérable et je suis finalement un être humain. Mmh.
Est-ce que tu pensais, il y a 10 ans, pouvoir dire « je mets en avant aussi ma vulnérabilité » ?
J'aurais jamais pensé dire ça. J'aurais jamais pensé dire ça. Mais tu sais, à travers le coaching, tout le coaching que j'ai fait sur moi, les formations... Le mentoring, j'ai compris que ma vulnérabilité, c'est ce qui faisait ma force. Mm. Et notamment, en tant que coach sur les réseaux sociaux, plus je suis vulnérable, plus je suis authentique, plus je suis moi-même, plus je tisse des liens forts avec mon audience et plus j'attire des personnes qui me ressemblent et plus je signe des clients qui me ressemblent.
Mm. Parce que toi, tu t'es lancée aussi dans le leadership féminin.
Tout à fait, oui.
Et le leadership passe aussi par l'acceptation de sa vulnérabilité.
Oui, ouais. Tout à fait. L'acceptation de toutes ses facettes.
De toutes ses facettes, exactement. Parce qu'on a tendance à... Moi, c'est ça qui me dérange aussi avec cette perception-là, c'est qu'au début, on a mis trop en avant le leadership comme étant la surpuissance de la femme. Le leadership féminin, c'est ces femmes... talons aiguilles, tir à quatre épingles, voilà, CEO, etc. Le leadership n'est pas ça. On peut faire preuve de leadership au sein de sa petite famille, vis-à-vis de soi-même aussi. Il y a différentes zones d'exercice du leadership, comme on dit.
Tout à fait. Et on peut l'exercer pendant toute la journée, au travail, chez soi, avec ses enfants, avec ses clients, avec sa famille. On peut être dans le leadership toute la journée.
Alors Nada, tu en es où aujourd'hui avec toi-même ?
Avec moi-même.
Oui.
Alors, avec moi-même, je me sens très bien, alhamdoulilah. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je travaille sur moi tous les jours. Je me connecte à moi tous les jours. Tous les jours, comment je vais dire ça ? Je veille à exprimer my true self, mon authenticité, ma voix, ma vulnérabilité. Alhamdoulilah, je suis très satisfaite du parcours que j'ai parcouru. Et je suis pleine d'espoir par rapport, inchallah, au futur que je vais avoir des idnillah. Donc, je suis confiante, sereine, fière de ce que j'ai accompli. Et I'm looking forward for, inshallah, my future.
Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, ma jeune femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.